Ok, vous êtes prêts pour 2h30 de prédication? Alors on va pas faire une agape, c'est surprise aujourd'hui, on va faire un jeûne. Jeûne et prière. Non, c'est bon, on est en Alsace, on sait combien que c'est important de manger ensemble. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Walter Alexandre. Je suis membre de cette église, ancien batelier et marié à Laetitia et père de 3 enfants. Je vous dirai pourquoi j'ai dit batelier après. Oh yes. Alors, nous allons continuer à réfléchir ensemble sur notre série des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple et les différentes caractéristiques du disciple? Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble une particularité du disciple de Jésus. En tant que disciple, nous devons réaliser quelque chose de bien spécial. Alors attention, ça va piquer. Et pour cela, nous allons prendre un texte ensemble, mais ce texte, surtout au verset 24-25, surtout le 25, c'est le verset le plus répété des évangiles. Des 4 évangiles, c'est le verset le plus répété. 2 fois dans Matthieu, 2 fois dans Luc, 1 fois dans Marc, 1 fois dans Jean. Alors rien que cela, ça devrait nous faire réfléchir à l'importance de ce que veulent apporter les auteurs sur cette chose que nous devons faire en tant que disciples. Alors, ça se trouve dans Matthieu 16, 21 à 28. Je suis désolé, c'est un peu petit, mais je vais vous le lire. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus se retourna, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il donnera à chacun ceux qui lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous poser une question. Alors attention, c'est une question qui tue. Attention, c'est violent. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêt, ici, maintenant, à mourir? Je vous ai dit que ça allait tuer. Hein. Bon, c'est violent. Hein. Bien sûr, ce n'est pas moi qui vais vous tuer. Hein. Mais êtes-vous prêt si la mort venait maintenant, vous prendre? Waouh, c'est dur hein, ce matin. Ouh, ça cogne déjà. Bon, pour qu'on puisse bien comprendre, la Bible nous parle de plusieurs morts. Alors, on va un peu expliquer ces choses, on va regarder ensemble. C'est toujours le même mot dans la Bible, mais ça a des connotations un peu 10 fois différentes. Nous allons voir ensemble ce que ça veut vraiment dire. Et pour commencer, nous allons commencer par la mort physique. Et j'ai un vieil ami à moi qui redoute tellement la mort physique. Cela l'angoisse à un tel point, car il ne sait pas ce qui l'attend, et il en a peur. Et c'est légitime. Il y a une espèce de bug dans ce monde, ça ne devrait pas exister. Et pourtant, elle n'est là que par notre faute, que parce que mon cœur a voulu être libre de toute contrainte et être libre de Dieu lui-même, vouloir m'affranchir de Dieu. Dieu nous laisse cette liberté. Il nous laisse faire car il nous aime. Hier, avec le groupe de Jeune Enco, on a un peu regardé comment Dieu pourrait créer le monde s'il avait... est-ce qu'il aurait pu faire ? Il aurait pu, par exemple, créer un monde que de fleurs. Pas de problème. Un monde que de robots qui obéissent toujours à la même chose. Pas de problème. Mais ce n'est pas ça. Comment on fait pour aimer des gens ? Et pour aimer des gens, il nous a laissés libres. Libres de choisir, de le choisir ou non. Mais si nous nous libérons de Dieu, alors nous nous libérons de l'amour le plus pur qu'il puisse y avoir de tout l'univers et au-delà. Si nous nous libérons de Dieu, alors nous nous libérons de la paix la plus absolue qui existe. Mais si nous nous libérons de Dieu, alors nous nous libérons également de la vie. C'est logique. Seul mon Créateur me donne la vie. Mais si je ne veux plus de lui, si je refuse aussi la vie qu'il me donne, ouais. C'est comme un robot, par exemple. Imaginez que vous avez un robot comme ça, qui est fabriqué et qui veut se libérer de son fabricant. Pas de problème. Pendant un certain temps, il va pouvoir fonctionner. Mais inévitablement, à un moment donné, il va y avoir la panne. Et s'il refuse que son fabricant intervienne, ben il finira vraiment HS, hors service. La mort physique n'est ici que la conséquence du choix fou que j'ai fait de vouloir me libérer de mon Créateur qui me donne la vie. Sommes-nous prêts à mourir physiquement, maintenant ? C'est la question que Dieu m'a posée l'année dernière. Alors, il faut que je vous explique ça. Au mois d'avril, j'ai passé des vacances qui étaient super géniales. Alors, franchement, on est parti avec la famille en Bretagne, il faisait beau. Comme quoi, les Bretons peuvent aussi avoir du soleil, vous voyez. On était sur une petite île, on avait pris des vélos, on avait fait toute une semaine en vélo sur l'île. C'était vraiment génial, on alternait entre la plage, voilà. Et c'était vraiment sympa, et c'était tellement sympa que j'ai failli mourir deux fois. C'est terrible, hein, la mort, elle s'invite même pendant les vacances. C'est inadmissible. La première fois, avec Elias. Nous nous encourageons mutuellement à aller nous baigner. Bon, alors, il faut quand même que je vous dise qu'au mois d'avril, en Bretagne, l'eau, elle est à 9 degrés. Alors, ça pique, hein, ça pique vraiment fort. Alors, c'était un peu pour la frime, Elias et moi. On se dit, allez, viens, au moins une fois pour dire qu'on a réussi à se baigner, on va dans l'eau. Et alors, on rentre, et là, on se dit, ouah, ça pique. Alors, on ressort, il fait 20 degrés dehors, donc on attend un peu, on revient, on va un peu plus loin de nouveau. Et à fur et à mesure, on arrive comme ça, tout doucement, à se mettre complètement dans l'eau. Et là... Quand on est complètement dans l'eau, à 9 degrés, on ne reste pas longtemps. Hein. Du coup, je sors et je dis à Elias, allez, une dernière et on arrête. Et je cours, je plonge et je cogne direct un rocher qui était juste en dessous de la surface. Si j'avais plongé la tête en première, je serais mort. Alors je vous garantis que ça m'a fait vachement réfléchir, parce que je suis sorti de là, j'ai dit « waouh, là, j'ai failli mourir ». Mes mains, elles étaient en sang, et elles ont mis longtemps à cicatriser de l'impact avec le rocher, mais si j'avais pas mis mes mains devant, ouais, je serais mort. La deuxième mort, elle m'attendait sagement dans un plat d'huîtres. Ouais, comme quoi, nous on adore ça, hein. On adore ça, on va en Bretagne pour ça, pour manger des crustacés et des huîtres, et puis c'était un peu notre rituel, comme ça tous les deux jours on se faisait un apéro aux huîtres, alors ok, c'était pas folle, mais on n'a rien senti, ni au goût ni à l'odeur, et on les a fait en apéro à 11h, Et finalement, vers 18h le soir, les premières crampes arrivent. Alors je me dis, bon, allez, c'est tout, on va vomir, comme ça c'est réglé. Mais à 18h, c'est trop tard, c'est déjà passé dans le tube digestif. Hein, donc tu peux vomir tout ce que tu veux, c'est passé. À 22h, Laetitia appelle les urgences parce qu'on ne sait plus quoi faire. Je suis plié en quatre et je me dis, waouh, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Je vais mourir là. Alors le problème, c'est que quand on appelle les urgences et qu'on est sur une île, eh ben non, il n'y a pas de médecin. Donc ils ont appelé un infirmier qui est venu, il a constaté la chose, il a dit, ok, il faut qu'on évacue, aller aux urgences. Donc ils nous ont appelé une ambulance. Alors il y avait une ambulance sur l'île qui m'a ramené de là où on logeait jusqu'à l'embarcadère. Alors j'ai vomi dans l'ambulance. Dans l'embarcadère, ils m'ont sorti le bateau de secours, rien que pour moi, j'ai vomi dans le bateau de secours. À terre, ils m'ont ramené une ambulance pour me ramener aux urgences. J'ai revomi dans l'ambulance. Enfin, voilà, vous voyez le truc, c'était vraiment sympa. À 2h du matin, ils m'ont sédaté pour que ça aille mieux. Alors, je suis ressorti à 10h. Le lendemain, tout allait bien, allait mieux. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait réfléchir. C'est en voyant ma femme, mes enfants qui pleuraient au moment du départ, quand j'étais plié sur ma civière, je me suis rendu compte que je n'étais pas encore prêt à mourir physiquement. Et c'est en toute franchise que je vous dis ça, je l'ai vraiment pris comme un message pour me dire « Ok, tu n'es pas encore prêt à me rejoindre. Ce que tu prêches, ouais, c'est cool, c'est bien, c'est juste, mais tu n'es pas encore prêt. Sommes-nous prêts à rejoindre Jésus ?» Oui, j'ai envie, mais est-ce que je le suis vraiment prêt? Je ne sais pas. Alors priez pour moi, priez pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse aussi être prêt quand la mort physique arrivera. Et c'est important. Après, la mort physique, en réalité, c'est Adam et Ève qui ont fait ce choix en premier. Ils pouvaient jouir de tout ce qu'ils voulaient sur la terre, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est interdit. Et vous savez ce que ça donne quand c'est interdit? Généralement, ça finit mal. Hein ouais. Ouais, c'était marrant parce que hier, on a aussi réfléchi au groupe de jeunes, là, Enco. On a regardé, si c'est interdit, tu fais?
Oh bah oui, bien sûr.
Ça m'a fait rire. En Angleterre, il y avait comme ça, sur une pelouse qu'ils voulaient garder propre, il y avait des panneaux interdits de marcher sur la pelouse. Et bien entendu, les gens étaient sur la pelouse. Donc les autorités ont décidé de changer les panneaux en « il est obligatoire de marcher sur la pelouse ». Et bien là, finalement, il y a eu beaucoup moins de gens qui ont marché dessus. C'est terrible ce côté rebelle que j'ai toujours et encore. Hein, c'est terrible. Et ça ne vient pas que de Adam et Ève. Hein, parce que si j'avais été à leur place, j'aurais fait malheureusement le même choix. J'aurais fait la même chose. Adam et Ève ont introduit la mort physique dans le monde, étant donné qu'ils voulaient vivre par eux-mêmes. Mais il y a pire que la mort physique qu'ils ont introduit. Ils ont également introduit la mort éternelle. Alors je ne parle pas de la mort physique où nous quittons notre corps, non, non, mais bien celle d'être définitivement séparés de Dieu. Actuellement, il t'appelle inlassablement. Mais le jour où ton corps s'arrêtera de vivre, on sera jugé. Et suivant le jugement, nous mourrons éternellement ou pas. Et quelle folie ! La mort éternelle, c'est cette vraie séparation d'avec Dieu. La Bible, elle appelle ça l'enfer. Alors croyez-moi, comparé à ce que certains disent, l'enfer n'est pas sur terre. Dieu tient encore les choses, mais le jour où Dieu lâche, qu'il ne tient plus les choses, oui, ça, c'est l'enfer. Le fait d'être séparé vraiment de cet plus grand amour qu'il peut y avoir, d'être séparé de lui, ouais, c'est pire que nos cauchemars. Alors je ne dis pas ça pour nous faire peur, mais ça fait peur, c'est la réalité. C'est ce que la Bible appelle l'enfer, la mort éternelle, éternellement loin de l'amour, de la paix et de la vie en Dieu. Et pour bien comprendre la chose, quand Adam et Ève ont chuté, Dieu nous a mis une chose qui aurait pu nous aider à ne pas être séparés de lui complètement, la loi. C'est beau ça, non ? La loi. Et la loi, elle est bonne. Alors attendez, quand je dis que la loi, elle est bonne, je parle de la loi de Dieu. Hein. Je ne parle pas de la loi que les hommes sont en train ou sont capables de pondre, parce qu'en ce moment, ils nous pondent des lois un peu bizarres sur l'aide à mourir. Et quelle catastrophe ! Mais ça, c'est une autre histoire. Dieu nous donne sa loi, et si nous respectons toute la loi, alors peut-être nous pourrons échapper à la sentence, à la mort éternelle, cette séparation d'avec Dieu. Mais on le voit, c'est impossible. On ne peut pas. Soit je fais ce que la loi me demande de ne pas faire, soit je ne fais pas ce qu'elle me demande de faire. Et dans tous les cas, je n'y arrive pas. Et comme j'ai rompu l'alliance avec Dieu, alors Dieu nous met dans une autre alliance. Une alliance où la loi est devenue, pour chacun d'entre nous, notre épouse. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes mariés à la loi. Depuis ma naissance, je suis né de parents pécheurs, c'est-à-dire que depuis ma naissance, je suis enchaîné à la loi et je ne peux pas briser cette alliance. Elle est marquée dans ma chair au plus profond de moi et mon épouse est la loi. Et comme pour un mariage, je ne peux pas briser cela, je ne peux pas divorcer d'elle, ça n'existe pas. C'est parce que mes parents descendent d'Adam et d'Ève que la loi me colle à la peau. Et ce mariage, cette alliance, je dois l'assumer. Nous sommes tous mariés à la loi. Mais la loi est bonne. Elle nous montre ce que nous devons faire ou ne pas faire. Mais elle nous montre aussi qu'on n'y arrivera pas. C'est à cause d'elle que je me rends compte du péché que j'ai. Et par conséquence, elle nous condamne et la fin sera la mort éternelle. Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Au contraire, encore et encore, avec patience, avec une patience infinie, que moi je n'ai pas toujours, il te tend cette main pour que nous acceptions son Fils qui, lui, n'avait pas de lien avec la loi. Il n'est pas marié avec elle. Alors oui, il descend de Marie, qui descend d'Adam, donc effectivement du côté pécheur, mais il a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'était pas marié à la loi, Jésus, mais il l'a parfaitement respectée. Et il a accepté, malgré qu'il a parfaitement respecté la loi, ce que nous n'y arrivons pas, il a accepté de mourir, pas à cause des hommes, non, pas du tout. Il a juste pensé à toi et à moi. Et il a décidé de subir la mort éternelle, cette séparation d'avec Dieu, alors que rien ne lui obligeait à faire cela. Il nous a juste aimés à un tel point. Jésus est mort physiquement. Sur la croix. Il s'est séparé de Dieu lui-même pendant les 3 jours, la mort éternelle. Mais la mort ne pouvait pas le garder. Et le 3e jour, il est revenu à la vie, il est ressuscité. Et comme Adam et Ève, nous avons, nous aussi, ce choix à faire. Nous pouvons jouir de tout ce qu'il y a sur cette terre, mais nous devons faire un choix d'accepter Jésus dans notre vie ou pas. Cette fois, ce n'est pas une interdiction, comme dans Adam et Ève, mais c'est une main tendue. Alors si aujourd'hui tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, viens voir les responsables à la fin pour qu'on puisse prier pour toi. C'est tellement important, ne passe pas à côté de la vie. Alors juste pour récapituler un peu là, parce qu'on a dit quand même beaucoup de choses, nous avons vu que parce que nos parents sont pécheurs, que nous aussi, nous le sommes, nous héritons de ce péché-là et par conséquence, nous sommes d'office mariés à la loi. Et cette épouse est extrêmement bonne, mais elle nous mènera à la mort éternelle, à la séparation d'avec Dieu, notre Créateur. Elle nous condamnera parce que je n'arrive pas à faire ce qu'elle me demande de faire. Ouh, on fait une pause ? Bon les gars, vous pensiez que vos épouses, elles étaient bonnes ? Bon, vous voyez que hein, finalement, vous en avez une autre qui est extrêmement bonne, mais qui va vraiment vous condamner. C'est un peu version mente religieuse. Vous voyez le truc ? C'est horrible. Bon, maintenant que nous savons que la loi nous condamne et que nous sommes mariés à elle, comment faire ? Comment faire pour accepter Dieu, revenir à lui ? Et c'est toujours la même histoire. Ça fait 2000 ans que c'est le même discours. On aurait pu mettre nos premiers pères de l'Église ici, ça aurait été la même chose. Mais le problème, c'est que la société change, le monde évolue ou régresse, les modes passent, mais la bonne nouvelle restera. L'Évangile sera toujours prêché et il ne change pas. L'Évangile reste le même indéfiniment. Nous ne pouvons pas nous en sortir, nous ne pouvons nous en sortir que si nous acceptons, mettons notre foi en Jésus. En faisant cela, nous faisons deux choses. Attention, la première, la loi qui devait te condamner et me condamner va condamner un autre, comme dans le temps de l'Ancien Testament, où un animal innocent devait payer pour toi. Ici, c'est Jésus qui paye pour toi. Et je sais que pas mal d'entre vous dans cette église ont accepté Jésus déjà dans leur vie, ont mis leur foi en lui. Et si nous devons maintenant regarder le registre qui vous concerne, chacun individuellement, devant Dieu, que verrait-on ? J'aime bien faire ça dans le discipulat que je fais. Donc si on devait prendre le registre qui vous concerne de votre vie, qu'est-ce qu'on verrait à l'intérieur ? Alors, je sais que quand je fais ça dans le discipulat, on a la petite goutte de sueur, comme ça, du jeune, là, qui se dit « Ouh là là, il y a peut-être plein de choses, il y a plein de choses. » Le fait de mettre ta foi en Jésus, le fait d'accepter qu'il verse son sang sur la croix pour tes fautes, transfère ton péché, ta transgression de la loi, ton épouse qui te condamne, elle le transfère à quelqu'un d'autre. Elle n'efface pas ton péché, hein, parce qu'elle va condamner ton péché. Donc imaginez que c'est votre livre et elle va simplement, hop, elle va faire ça, on enlève la page et on la donne à quelqu'un d'autre, à Jésus. Et maintenant, ton livre qui est devant le Seigneur, qu'est-ce qu'on y voit ? Rien. La loi veut te condamner et elle va condamner quelqu'un par rapport à ce que tu as fait. Mais cette personne, elle l'a déjà condamné. C'est Jésus. Et par conséquent, elle ne peut plus te condamner toi. Alors, c'est un gros mot théologique. Là, en théologie, on appelle ça la substitution. On enlève ton péché et on le donne à quelqu'un d'autre, à Jésus. Mais ça permet justement à ce que tu puisses retrouver cette relation et ne plus avoir une mort éternelle, mais au contraire, une vie éternelle avec Dieu. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, dans le fait de mettre ta foi en Jésus, eh ben, tu dois faire quelque chose aussi. Tu dois mourir à toi-même. Voilà encore une mort. C'est qui celle-là ? C'est bizarre, hein ? Comme Jésus est mort physiquement sur la croix pour nous, nous aussi, nous devons mourir à nous-mêmes. Et c'est la seule solution pour te libérer de ton mariage avec la loi. Pour bien comprendre, c'est comme pour un mariage de deux personnes. Vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Nous ne pourrons nous affranchir de notre épouse, la loi, que si l'un d'eux meurt. Et je vous garantis que la loi ne mourra pas. Il n'y a que vous qui pouvez mourir. La personne qui accepte Jésus, qui met sa foi en lui, doit mourir à lui-même pour briser l'alliance, ce mariage avec la loi. Et toujours comme à l'image de Jésus, ressusciter, revenir à la vie. Et là, tu as le choix de te marier avec qui tu veux. Tu es libre du coup. Est-ce qu'on reviendrait de nouveau à notre ancienne alliance, à la loi ? Non, non, si on meurt à nous-mêmes, alors on revient et on se marie avec Jésus. C'est la même chose que le mariage d'un homme et d'une femme. À partir du moment où tu en as un des deux qui meurt, tu es libre de l'alliance qui a été faite et tu peux, dès le lendemain, te marier à nouveau. C'est tout à fait le symbole qu'on voit ici à travers le baptême. C'est cette mort à soi-même dans l'eau du baptême et la résurrection quand nous ressortons de l'eau, prêts à nous marier avec Christ, car nous avons brisé notre ancien mariage avec la loi. Alors concrètement, alors attention, c'est une question que je vous pose, réveillez-vous. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être mort à soi-même? On va chercher quelques exemples. Et moi, j'aime bien avoir des fois des exemples que je n'aurais peut-être pas forcément en tête. Si on vous dit, vous êtes mort à vous-même, à quoi avez-vous renoncé? Est-ce que quelqu'un veut me donner un exemple? À mes désirs, ouais. À mentir, ouais. À dire la vérité, oui, exact. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut... Pardon? À des mauvaises choses, penser à des mauvaises choses ou faire des mauvaises choses, oui. Ouais. À vouloir changer. Est-ce que vous comprenez que c'est cette conversion, cette mort dans l'eau où nous faisons notre 180 degrés, quand Jésus nous dit « il faut que tu te convertisses, il faut que tu meures à toi-même », la conversion, c'est ce 180 degrés pour dire « je ne vais plus là où j'avais décidé d'aller ». Non, ça c'était mon ancienne vie. Mais je vais là où Dieu veut que j'aille. Ça, c'est ma nouvelle vie. Ce n'est pas moi qui décide, ce n'est plus moi puisque moi je suis mort dans l'eau du baptême. C'est Dieu qui décide pour moi maintenant. Mais on pourrait aussi mourir beaucoup avec encore d'autres choses, d'autres idées. Par exemple, mourir à nos rêves. Mourir à notre vision d'église. Je dis ça parce que je suis en plein dans Bonhoeffer en ce moment et c'est génial Bonhoeffer. Mais Bonhoeffer, il raconte dans la vie communautaire que combien on vient dans l'Église avec nos idées préconçues du culte, préconçues de comment on doit faire. Et si nous mourions à ça? Et si nous laissons Dieu faire? Mourir à mes projets, ça a été dit aussi, hein, et laisser choisir Dieu, laisser choisir Jésus pour notre vie. Allez, je vous donne un exemple. La première année où on s'est marié avec Laetitia. Alors, ce n'était pas la première année où on s'est marié. C'était juste avant le mariage. Donc, on était en train de faire les préparatifs du mariage et on a décidé de vivre après le mariage pendant un an, d'aller sur les bateaux. Parce que moi, je suis un ancien batelier, un ancien matelot d'eau douce, s'il vous plaît. Et du coup, j'allais sur les bateaux, et les bateaux, c'est un peu contraignant, hein. Les bateaux, on dit toujours que si tu reviens à terre, c'est uniquement parce que tu trouves ta femme, et c'est vrai. J'ai trouvé ma femme, je suis revenu à terre parce que c'était vraiment génial, les bateaux. Et du coup, on avait décidé, je voulais montrer ça à Laetitia, lui faire cette expérience, combien c'est génial de vivre sur les bateaux. Et finalement, on s'est dit, OK, après le mariage, on se fait une année sur les bateaux, comme ça, une espèce d'année sabbatique. Et puis, on préparait le mariage, on préparait ce projet à partir. Et à un moment donné, on se dit, ouh, mais attends, on n'a pas demandé au Seigneur. Et on a envie de demander. Et du coup, on prie ensemble, on s'isole. Alors, je me vois encore, c'était dans le salon de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle nous laissait y aller souvent, elle ne nous dérangeait pas comme ça. Et on lisait la Bible, on priait, c'était génial. Et puis, on disait, voilà Seigneur, on a vraiment envie que tu diriges nos projets. On a envie de partir, c'est notre désir, mais quels sont tes désirs à toi ? Et puis finalement, on était en train de lire 2 Rois 2. Alors 2 Rois 2, c'est Élie qui part sur son char de feu, qui rejoint le Seigneur, et Élisée qui va reprendre la suite comme prophète. Et on a quand même les anciens disciples de Élie qui viennent et qui disent à Élisée, « Oh là là, peut-être que le Seigneur a mis Élie quelque part, au fond, là-bas, derrière les montagnes. Permets-nous d'y aller. » Et puis Élisée dit, « Non, n'y allez pas, c'est pas la peine. » Mais les disciples le saoulent tellement qu'il dit, bon, vous voulez y aller, vous y allez. Et au verset 18 de 2 Rois 2, il est écrit, « Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élie, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. » Et Laetitia et moi, on était en train de lire, séparément chacun, dans la même pièce, mais séparément, on était en train de lire ça. Et on voit le « n'allez pas » ressortir du texte, nous mettre deux baffes comme ça. Et là, on se dit « waouh ». On a rigolé, on a dit « ok, bon, ben, je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on aille sur les bateaux. Ok, Seigneur, bon, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Mais c'était pour nous vraiment une décision importante de suivre Jésus. Dieu nous parle énormément à travers la Bible. Alors lisez la Bible. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à mourir à nous-mêmes et à laisser faire Dieu dans le domaine de l'argent, de nos finances? Est-ce qu'on laisse le Seigneur gérer nos finances? Dans notre travail? Dans notre future femme, homme, mari, par exemple, dans notre famille, dans nos achats, par exemple. Et c'est Luther qui disait que je voulais noyer le vieil homme dans l'eau du baptême, mais le bougre y sait nager. Jour après jour, nous devons à nouveau mourir à nous-mêmes et le remettre dans cette eau du baptême. Et quand nous sommes avec Jésus et que nous acceptons, ce n'est pas du 20%. Ce n'est même pas du 80%, c'est 100% avec Jésus, 100%. Nous lui laissons toute notre vie. Et il y a des choses qui restent accrochées comme ça, où on n'a pas envie. Non Seigneur, non c'est à moi. Non mais le Seigneur il demande, voilà, es-tu prêt à mourir vraiment pour tout, pour toute ta vie? Ce n'est pas évident, hein? Pour conclure, vous pouvez vous réveiller maintenant, c'est ma conclusion, comme ça vous avez à peu près tout. Vous pouvez retenir que la mort physique est rentrée dans le monde parce que Adam et Ève ont voulu se libérer du Dieu de la vie. Et si on se libère d'un Dieu de la vie, c'est forcément la mort qui arrive. Malgré que nous avons peur de cette mort, elle n'est rien comparée à la mort éternelle. Cet enfer, cet enfermement loin de Dieu, celle-là, oui, il faut la craindre, il faut en avoir peur. Mais Dieu nous tend la main à travers Jésus, à travers son sacrifice sur la croix, son sang versé, et la foi que nous mettons en lui nous libère de cette mort éternelle. Et pour cela, nous devons mourir à nous-mêmes. Et cette mort-là est l'une des plus importantes. Laissez Dieu faire une pleine confiance en lui et nous libérer de ce mariage avec la loi. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je prie encore. Seigneur Jésus, tu vois combien je n'ai pas été à la hauteur quand la mort vient en face. Et pourtant, je t'aime tellement. Mais ça me fait tellement penser à Pierre qui est tout feu, tout flamme et qui finit dans l'instant après de te renier. Permets-moi et permets-nous à chacun d'entre nous de t'aimer toujours plus et de mettre cet amour en action également. Permets-moi et permets-nous de toujours plus mourir à nous-mêmes, pour toujours plus te laisser grandir en nous, que nous soyons ici, Église de Bouxwiller, de vrais disciples, qui te faisons entièrement confiance. Permets-moi et permets-nous de nous encourager mutuellement à tenir toujours plus ferme dans ton nom. Et permets-moi et permets-nous de perdre notre vie, pas pour gagner la mort, mais pour gagner la vie éternelle en toi. Amen.